nous pouvons passer à la partie plus récréative de cette Assemblée générale. Et j'ai le plaisir de demander à Madame Nathalie Andrews de nous rejoindre pour une présentation sur son activité au sein de l'association Choisir, le choix plutôt. Laissez-moi vous présenter brièvement avec ces mots, Madame. Les questions-réponses après. C'est bon. Madame Andrews nous dit qu'elle est convaincue depuis son adolescence que chaque être humain doit pouvoir décider de sa fin de vie. Le bénévolat exercé dans des hôpitaux dans les années 80 a confirmé ce sentiment. Il lui a semblé essentiel que des associations participent à faire évoluer les mentalités et à informer tant les citoyens que le corps médical. À l'arrêt de son activité professionnelle, elle était active dans les domaines de l'architecture, de l'immobilier et de l'aéronautique. Elle a adhéré à ADMD Belgique en 2003, où elle a été notamment administratrice pendant 15 ans. Elle fut ensuite secrétaire de Right to Die Europe de 2011 à 2013 et elle est actuellement engagée au sein de l'association du choix depuis sa création en 2018. Elle est la coprésidente avec M. Denis Labelle depuis 2020. Elle espère que bientôt son pays n'aura plus rien à envier à la Suisse et aux autres pays qui ont déjà accordé ce choix de fin de vie à leurs citoyens. Et elle va nous dire pour quelles raisons elle se montre optimiste. Tu as la parole, Nathalie.
Bonjour, merci. Mesdames, messieurs, bonjour. Tout d'abord, je souhaite vous remercier. Ah ! Comment voulez-vous que je fasse le clown si on me coupe le micro ? Voilà, donc je recommence. Tout d'abord, je souhaite vous remercier, Gabriella, Jean-Jacques, cher coprésident, d'avoir invité le choix au 40e anniversaire de votre association. Cet anniversaire illustre combien votre association est importante. Dès sa création, elle a eu pour but de promouvoir le droit de l'être humain de disposer librement de son corps et de sa vie. Créer cette association a été le moyen de se battre pour faire respecter le droit de choisir sa manière de vivre, les étapes ultimes de la vie, mais aussi le droit du patient à être maître des derniers moments de sa maladie et obtenir une mort digne et humaine. Au long de ces 40 années, Exit a offert tout cela à nombre de vos compatriotes. Je ne peux parler du travail accompli par votre association sans saluer tous ses membres, car leur engagement a été indispensable au combat mené. J'ai une pensée toute particulière pour Jérôme Sobel, que je connais depuis longtemps, et pour tous les accompagnateurs disponibles qui ont fait preuve d'une formidable humanité. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je confirme que, vu mon grand âge, je ne pourrai pas venir aux 80 ans de votre association. Avant d'évoquer la situation en France, je vous propose de faire un tour d'horizon de la situation actuelle dans le monde. Les Pays-Bas ont légiféré en 2001, et depuis 20 ans, la Belgique est dotée de 3 lois importantes, celle sur l'euthanasie, une autre sur les droits du patient et enfin une loi sur les soins palliatifs. En 2014, ce même pays a ouvert l'euthanasie aux mineurs d'âge grâce à une extension de la loi et depuis 2009, des personnes de grand âge souffrant de polypathologies invalidantes peuvent bénéficier d'une aide médicale si elles le souhaitent. Il y a 8 ans, au Québec, la loi sur l'aide médicale à mourir a été massivement votée, loi qui a été étendue au reste du Canada en 2016, sachant qu'au Canada, chaque province est responsable de ses lois relatives à la santé. Ce 25 mai a été déposé un projet de loi qui permettrait aux personnes atteintes d'Alzheimer au Québec, de faire une demande anticipée pour l'aide à mourir. Depuis plusieurs années, l'Association québécoise sollicite l'accès aux demandes anticipées pour des maladies neurodégénératives, ce qui permettrait l'aide médicale pour celles et ceux qui décident que le jour où je ne reconnaîtrai plus ma famille, par exemple, eh bien, je souhaite qu'une aide me soit accordée. Les Néo-Zélandais ont voté une loi sur l'euthanasie, une, voix, une loi qui est ad minimum pour des patients ayant une espérance de vie de 6 mois. Ce délai de 6 mois se retrouve presque toujours dans les pays anglo-saxons qui ont légiféré sur la fin de vie. En Australie, 6 des 8 États ou territoires ont déjà légiféré. Début 2021, au Pérou, un juge avait ordonné la dépénalisation de l'euthanasie pour une femme de 44 ans souffrant d'une maladie auto-immune. La décision finale devait se tenir la semaine dernière, mais je n'ai rien entendu encore. Cependant, une aide reste punissable de 3 ans de prison dans ce pays, et un projet de loi présenté l'an dernier n'avait pu être adopté. En mars 2021, l'Espagne, pourtant connue pour être un pays d'influence catholique, s'est dotée à son tour d'une loi sur l'euthanasie. Le suicide assisté, s'il est possible depuis très longtemps dans votre pays, n'a été légalisé en Autriche qu'en fin 2021. En Allemagne, il y a 2 ans, la Cour constitutionnelle a invalidé non seulement l'interdiction de l'aide au suicide, mais a contraint purement et simplement le Parlement allemand à donner les moyens à chaque personne de se suicider, que celle-ci souffre ou non d'une maladie incurable. Reste à voir ce qu'il en est en pratique, car la situation ne semble pas si facile sur le terrain. Aux USA, 10 États actuellement permettent le suicide assisté, en général pour des malades dont l'espérance de vie est assez courte. Le mois dernier, un projet de loi visant à faciliter l'aide à mourir à Hawaï, c'est-à-dire raccourcir le délai d'obtention et faciliter la prescription, n'a pu être voté. Le Portugal, à son tour, a failli avoir une loi qui, à peine votée, a été retoquée par le président de la République qui la jugeait anticonstitutionnelle, ce malgré un nouveau passage du texte modifié au Parlement. Actuellement, donc, seul l'arrêt des traitements ou euthanasie passive est toléré dans certains cas sans espoir. Au Royaume-Uni, où la première association pour le droit à choisir sa fin de vie a vu le jour en 1935, les gens qui en ont la possibilité et le souhaitent vont mourir en Suisse. Au Japon, la question est soulevée depuis longtemps et aucun projet de loi n'a été adopté. Mais une certaine tolérance existe avec l'arrêt des soins, le soulagement de la douleur pouvant provoquer la mort sans intention de la donner, ce qui s'appelle le double effet. En Écosse, les députés interpellés par une pétition citoyenne avaient rejeté en 2015 une proposition de loi sur le suicide assisté. Mais un nouveau projet soutenu par un député libéraux-démocrate a de fortes chances d'être présenté au Parlement cet automne. D'autres pays, en Amérique latine, ont démarré des discussions sur ce sujet. En Colombie, où la Cour constitutionnelle avait statué en 1997 la dépénalisation de l'euthanasie, la première aide s'était produite en 2015. Et depuis peu, le suicide assisté y est également possible. En Afrique du Sud, comme au Danemark, le débat a aussi été relancé. D'autres pays, en Europe ou ailleurs, présentent ou représentent des projets de loi sur le choix de fin de vie, dont Israël. Une proposition de loi sur le suicide assisté sera peut-être présentée en Grèce. Cette année, en Italie, l'Assemblée a approuvé un projet de loi qui permet le suicide médicalement assisté, pas l'euthanasie, et seulement pour des personnes âgées de plus de 18 ans, en phase terminale de pathologie, capables de discernement et qui endurent des souffrances physiques et psychiques insupportables et dépendent de soutiens vitaux. Ensuite, le Sénat devra s'exprimer. Pour rappel, en février, la Cour constitutionnelle avait rejeté l'initiative populaire de plus d'un million de signatures visant à organiser un référendum sur la légalisation de l'euthanasie. Et la France, me direz-vous ? Où en êtes-vous ? Bien, écoutez, la situation n'est pas exceptionnelle. La bataille est loin d'être gagnée. Il y a quelques années, j'ai été sidérée par la foule descendue dans les rues pour manifester contre le mariage pour tous, loi qui ne concerne qu'un faible pourcentage de citoyens, et tout aussi sidérée par le peu de gens qui qui manifeste en faveur d'une loi nous donnant un choix de fin de vie alors que nous serons toutes et tous concernés un jour, à moins que nous ne soyons des extraterrestres pouvant vivre éternellement. Parmi les opposants en France, la notion de dignité est souvent évoquée. Or, ce mot n'a pas la même signification pour tous. En ce qui me concerne, je pense plutôt au respect de mes volontés, mon propre sens de la dignité tenant en grande partie aux limites que je me fixe. En qualité de citoyenne, d'ailleurs, j'avais écrit au président Macron en 2020. Pour tout vous dire, j'attends encore une réponse. Mais bon, il a peut-être oublié de mettre un timbre. Je lui trouve des excuses. N'oublions pas qu'avant de s'opposer, il faut apprendre à écouter. Et qu'avant de condamner, il faut savoir entendre la vérité de l'autre. Je laisse donc libre de leur choix les opposants et leur demande simplement de me laisser libre du mien. Très souvent, je me dis que les élus français vivent sur une autre planète que la mienne et qu'ils sont déconnectés de ces citoyens qui les ont élus. La fille aînée de l'Église, puisque c'est le surnom de la France, la fille aînée de l'Église est-elle enfin mûre pour ce débat ? Que dire de certains mandarins qui semblent ignorer ce qui est vécu par les malades ? Ce ne sont tout de même pas les Suisses ou les Belges, par exemple, qui doivent s'occuper des lois à promulguer en France. Et nous préférerions tous mourir chez nous, plutôt que d'envisager pour certains de franchir les frontières et d'anticiper notre mort. Il me semble qu'il doit y avoir dans mon pays assez de femmes et d'hommes responsables et courageux pour prendre enfin ce choix de société à bras-le-corps. C'est bien ce qui a failli arriver le 8 avril 2021. Mais avant de revenir au 8 avril, je vais me permettre de vous citer quelques dates qui me semblent significatives en France. Depuis 1975, avec la loi Veil, l'avortement est décriminalisé. En 1981, l'Assemblée nationale vote l'abolition de la peine de mort, projet porté par Robert Badinter, qui maintenant est opposé à une loi légalisant l'aide médicale à mourir. Il y a 20 ans, loi sur les droits du patient, dite loi Kouchner, ce dernier dit regretter de ne pas avoir été plus loin. Les regrets. La loi Leonetti de 2005 était relative aux droits des personnes malades et en fin de vie. Elle interdisait l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire tout traitement destiné à prolonger artificiellement la vie d'une personne. Je me souviens, il y a de nombreuses années, avoir discuté lors d'un débat avec le docteur Leonetti, qui m'avait dit « Mais madame, le suicide n'est pas interdit en France ». Et je lui avais dit « Mais c'est la seule réponse que vous pouvez donner aux gens qui sont malades et qui n'en peuvent plus ». Voilà. En 2013, la France devient le 9e pays à autoriser le mariage pour tous. 2016, vote de la loi Classe Leonetti, supposée mieux répondre à la demande de mourir dans la dignité par une meilleure prise en charge de la souffrance et en clarifiant l'usage de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Pour les personnes en phase terminale, elle veut aussi conforter la place de l'expression de la volonté du patient dans le processus décisionnel et en particulier de ses volontés précédemment exprimées dans des directives anticipées. Depuis l'an dernier, la PMA est autorisée dans notre pays. 8 avril 2021, j'y reviens. À l'issue d'une niche parlementaire de 24 heures, alors je ne sais pas si vous avez ce système de niche en Suisse, en France, il est possible de présenter un sujet bien particulier, d'en discuter pendant 24 heures, un délai précis à la minute près, et qui permet quelquefois effectivement de voter une loi. Donc, à l'issue de cette niche parlementaire de 24 heures, l'article 1 du projet de loi présenté par Olivier Falorni est voté pour 240 voix, contre 48, abstention 13. Ce, malgré près de 4000 amendements déposés par une poignée de députés afin d'éviter que la loi soit votée. Dans le cas d'une niche, tout amendement présenté doit être lu par son auteur dans son intégralité. Donc une dizaine de députés a pondu, permettez-moi l'expression, a pondu près de 4000 amendements. Ils ont parlé pendant des heures et des heures pour éviter que la loi ne soit votée. Donc, seul l'article 1 a été voté. Voici son contenu. Toute personne capable majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'il juge insupportable, peut demander à disposer, dans les conditions de l'article présent, d'une assistance médicalisée permettant par une aide active une mort rapide et sans douleur. Et en 2022, année d'une nouvelle élection présidentielle, quelque chose a-t-il changé en France sur la question ? Non, mais un jour peut-être. Nous sommes toujours dépendants de cette mauvaise loi de 2016. Alain Classe, son co-auteur avec Jean Leonetti, s'était dit réjoui et assumait les formules d'aide à mourir, de bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité, tout en réfutant le parallèle avec l'euthanasie, quel vilain mot. Notre loi répond durablement aux questions qui se posent sur la fin de vie, estimait ce même co-auteur. Surprenant. Surprenant en effet, car c'est faux. Et j'en veux pour preuve les très nombreux témoignages reçus dans le cadre du dossier « Victimes de la loi Classe-Leonetti » que mon association Le Choix publiera sous forme d'un livre blanc. Mais aussi le fait que de nombreux malades atteints de maladies neurodégénératives disent clairement ne pas souhaiter aller au bout de leur dégradation et de leur souffrance. Certains disent que cette loi est mal connue, mal appliquée. Ce sont de faux arguments. Il faut montrer que le fossé est ailleurs, sur les insuffisances et les incohérences de la loi, raisons pour lesquelles elle ne satisfait personne, ni les malades, car il faut quasiment être à l'agonie pour espérer bénéficier de cette sédation, ni le corps médical, parfois mal à l'aise avec cette procédure. Bref, la loi actuelle est extrêmement rigide et son application restrictive est imposée par le texte de la Haute Autorité de Santé. D'ailleurs, la Société française d'accompagnement des soins palliatifs a grandement participé à la rédaction de cette procédure. Cette sédation profonde et continue ne peut s'appliquer que dans trois situations. Pour un patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, quelques heures à quelques jours, présentant une souffrance réfractaire au traitement. Décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engageant son pronostic vital à court terme et susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Enfin, pour un patient ne pouvant pas exprimer sa volonté et pour lequel, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, une décision d'arrêt des traitements de maintien en vie est prise après la mise en œuvre d'une procédure collégiale. Or, ce type de procédure collégiale prend du temps. Et la personne en fin de vie n'en a plus. Si la loi actuelle était si satisfaisante, l'on peut se demander pourquoi moins de 20% de mes compatriotes ont rempli des directives anticipées ou testaments de vie, supposées les rassurer et conforter leur volonté vis-à-vis du corps médical. Bref, rien de satisfaisant, rien de rassurant. Maintenant, je vais me permettre de vous parler de l'association Le Choix citoyen pour une mort choisie, dont je suis coprésidente avec le docteur Denis Labelle depuis 2 ans. C'est une association laïque, apolitique et pluraliste dans les convictions personnelles et les sensibilités spirituelles de ses membres. Elle a été créée en 2018 quand le Conseil économique, social et environnemental a dit aux 2 personnes à l'origine de pétitions regroupant plus de 500 000 signatures que seules les associations pouvaient être auditionnées. Nous sommes certes une petite association, mais nous sommes dynamiques, même si notre développement a été freiné par la période de pandémie Covid. Au fil du temps, nous avons rencontré les différents députés et sénateurs ayant rédigé un projet de loi. Nous avons été auditionnés par différentes commissions. Le choix a écrit à tous les élus en insistant sur le fait qu'il ne fallait pas parler de phase avancée ou terminale d'une pathologie, car cela, si la loi était votée, exclurait les personnes souffrant de maladies neurodégénératives. Le docteur Labelle a rencontré différentes personnalités, dont François Hollande, qui estime un peu tard qu'il irait plus loin que la loi de 2016 si c'était à refaire. Plus récemment, Denis et moi avons écrit à tous les candidats à la présidentielle ainsi qu'à l'ancien ministre de la Santé, puis au président Macron une fois réélu et à la nouvelle ministre de la Santé. Nous aidons régulièrement des malades français dans leur parcours vers une mort choisie et légale en Belgique ou en Suisse, même s'il nous semble anormal de devoir s'expatrier pour bien mourir. Nous sommes d'ailleurs extrêmement reconnaissants à ces deux pays qui accueillent nos compatriotes. Que veut le choix ? Une loi offrant à chacun la liberté de choisir sa fin de vie. Une loi autorisant l'aide active à mourir pour les personnes atteintes d'une affection grave et incurable liée à une maladie ou conséquence d'un accident. Et désirant soit l'aide médicale à mourir comme en Belgique, soit le suicide assisté comme chez vous. Après avoir recours à l'avis de deux personnes, deux soignants ou un soignant et la personne de confiance. Cela sans attendre d'être arrivé à un stade ultime, sans attendre d'être soumis à des souffrances intolérables, car qui mieux que le malade peut quantifier sa souffrance. Nous souhaitons que l'acte puisse être pratiqué indifféremment au domicile de la personne, à l'hôpital ou en EHPAD, non français pour le MS, dont c'est le seul lieu de vie pour les femmes et les hommes qui y résident. Nous souhaitons également que les soins palliatifs se développent en France et soient surtout libérés de toute idéologie, ce qui les plombe actuellement. Un jour, peut-être, en France. Le choix travaille déjà à la formation d'une commission médicale, dont les membres, une fois la loi votée, pourront soit être les médecins pratiquant l'acte, soit les médecins référents, qui devront donner leur avis sur une demande d'aide à mourir. Ce que nous ne voulons pas, une loi classe Leonetti bis, exigeant que le malade soit au stade terminal de son affection, qu'il souffre de douleurs incontrôlables et avec l'obligation de trois médecins pour prescrire l'acte. Le président Macron, après sa réélection, a évoqué le possible lancement d'une convention citoyenne sur le sujet. Des conventions sur d'autres sujets sociétaux, nous en avons eu en France, sans résultat. Nous ne voulons pas d'une montagne qui accouchera d'une souris. Il serait plus simple, et surtout plus efficace, de relancer les travaux parlementaires pour faire voter les autres articles du projet du député Falorni. Si cette loi était votée, certes, elle ne serait pas parfaite, mais serait une avancée, et comme cela a été fait dans d'autres pays, des extensions et améliorations seraient possibles. La nouvelle ministre de la Santé semble plus ouverte à nos souhaits. L'avenir nous dira ce qu'il en est. Avec l'âge, je deviens très prudente. Je me souviens, quand la loi Veil a été votée, toutes les femmes ne se sont pas précipitées pour avorter, mais elles en ont eu la possibilité sans passer par les faiseuses d'anges ou aller à l'étranger pour les plus chanceuses. Pour la loi que nous souhaitons, c'est la même chose. Nous refusons de voir perdurer toutes ces agonies douloureuses, ces suicides violents et parfois ratés, et pour quelques-uns le départ en Suisse ou en Belgique, qui favorise les mieux informés et les plus nantis, ce qui est contraire à notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. En France, la mort est-elle toujours taboue ? Cela semble être le cas pour nombre de gens qui refusent d'aborder la question. Et pourtant, elle surviendra un jour. Dans la société française, on parle beaucoup de droits. J'ai le droit de ça, vous avez le droit, etc. Mais on nous y refuse le dernier, celui de décider de notre mort sereinement. Nos gouvernants qui se succèdent sont-ils plus rétrogrades que leurs homologues étrangers ? Je le crains et je n'en suis pas fière. Depuis la moitié du XXe siècle, grâce aux avancées de la médecine, l'espérance de vie a été grandement augmentée. Certains d'entre nous peuvent, à 90-95 ans, ne pas souffrir de pathologies lourdes telles un cancer ou Parkinson, par exemple. Mais notre tissu social s'est affaibli. Pour certains, a complètement disparu. Certains sont-ils devenus aveugles ? Pour d'autres, le corps s'est fragilisé et le seul fait de passer du lit à la chaise peut se révéler un exercice lent et douloureux. Est-ce ce que nous voulons pour nous, Français ? Française, je lutte donc, comme beaucoup d'autres, pour qu'un jour, peut-être, la classe politique de mon pays légifère afin que chaque citoyenne et citoyen, si c'est son souhait, fixe le jour et l'heure de sa mort. Sans oublier les médecins qui aident des patients en pratiquant cet acte d'humanité, ne soient enfin plus passibles des tribunaux comme c'est encore le cas aujourd'hui. Choisir le moment, après avoir réglé mes affaires, dire au revoir à celles et ceux qui me sont chers, m'être régalé une dernière fois d'un beau paysage, d'une merveilleuse symphonie ou simplement d'un bon verre de vin. Être libre de faire ce choix, un jour peut-être. Je milite depuis longtemps et j'ai trop vu de mauvaises morts, dont celles de proches, pour que l'on me prive de ce droit ultime. Je ne supporte plus d'entendre que le sujet n'est pas d'actualité et que nous devons faire avec une loi qui ne satisfait personne, hormis ses auteurs et les opposants à notre liberté. En 2022, voter une loi d'humanité au pays des droits de l'homme, est-ce une utopie ? Je souhaite que cela devienne enfin une réalité. Je voulais vous dire, normalement, le docteur Bernard Sonnet devait être donc ici, pour des raisons de santé, cela lui est impossible, mais je voudrais quand même insister sur le fait que cet homme qui est plein d'humanité et qui ne s'est jamais caché depuis des décennies d'aider des malades à bien mourir, est maintenant mis en examen depuis quelques mois. Il peut aussi se retrouver avec un procès, tout comme nombre d'autres personnes, souvent malades et très âgées, qui avaient un produit qui leur permettait d'envisager une bonne mort le jour où, et qui ont été perquisitionnés l'an dernier. Ces personnes avaient parfois 90 ans et se retrouvent maintenant dans un état d'incertitude sur les années ou le temps qui leur reste. Légaliser l'aide médicale à mourir en France ne voudra pas dire tuer, mais simplement permettre à certains d'être en accord avec leur volonté, leur subjectivité, leur propre sens de la dignité. Et si d'autres, pour des raisons qui leur sont personnelles, philosophiques ou religieuses, ne veulent pas, personne n'est obligé. Mais il faut peut-être cesser d'interdire. C'est notre vie, et je souhaite que notre choix, notre décision, soit enfin respectée, comme le définissent certains, accorder cette aide est un grand acte d'amour. Un jour, peut-être en France, cette liberté de choisir, cela fait trop longtemps que nous l'attendons. J'aurais pu encore vous parler plus longuement du choix, de toutes les activités que nous avons, entre autres, une manif que nous avons organisée le 2 avril à Paris. Nombreux participants, souvent venus de l'autre bout de la France, et qui, comme moi, n'étaient pas des jeunes. Et nous avons eu le plaisir, la surprise, à un moment de nous retrouver cernés par les CRS, arrivés avec le casque et tout, les armes. Je pense que la préfecture de Paris a dû se douter que nous devions être de dangereux agitateurs pour manifester à notre âge sur un tel sujet, surtout un samedi après-midi. Voilà. Donc, je pourrais vous dire encore beaucoup de choses, mais je ne veux pas non plus vous ennuyer. Si vous avez des questions, j'y répondrai très volontiers. Merci.
Bonsoir, madame, monsieur Farine, ici à gauche pour vous, ici, là, bonjour.
Oui, mais c'est le son. C'est le micro.
Oui, j'ai le micro, oui.
Ah,
ben,
d'accord, merci.
Alors, petite question, je suis en contact avec les autorités françaises, que ce soit les premiers ministres, les ministres en charge, et Il n'y a rien qui se passe en France. C'est un peu une république bananière, je vais dire, parce qu'on ne respecte pas les droits des citoyens. C'est là où il y a problème.
Alors, je suis bien d'accord avec vous. D'ailleurs, je continue de militer parce qu'il faut garder l'espoir. Comme nous respirons tous les jours en se disant « demain, on ne respirera peut-être plus ». Mais je me dis que si la loi, je ne la vois pas arriver, je me serais peut-être battue pour la génération suivante. En tous les cas, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'effectivement, il y a des problèmes avec les gens qui sont des décideurs, des dirigeants. Mais ces gens, nous les avons élus. Donc on peut se poser la question de la société française est-elle mûre ? C'est ce que je disais tout à l'heure pour ce débat. Par exemple, près de l'Assemblée nationale, le Vatican a un très bel immeuble d'ailleurs, où certains députés, qui ne se cachent pas d'être de bons catholiques pratiquants, vont prendre leurs ordres avant le vote sur certains sujets. Voilà.
Ça veut tout dire.
Autre question ? Oui, madame ?
Je ne sais pas qui en premier.
Oui, madame, il y a eu récemment un film qui s'appelait « Tout s'est bien passé ».
Oui.
Est-ce que vous savez si ce film qui montre un homme qui veut aller, subir une euthanasie et qui est obligé d'aller en Suisse ? Et ces deux filles qui l'attendent, qui lui disent au revoir au pied de l'ambulance. Est-ce que vous savez s'il y a eu des réactions en France ? Film, est-ce qu'il a été vu ? Quelles sont les réactions ?
Ce film qui donc est qui est tiré d'une histoire vraie. Monsieur Bernheim est effectivement parti mourir en Suisse il y a des années. À l'époque, ces filles n'ont pas osé l'accompagner parce qu'elles avaient un doute de que se passerait-il à leur retour en métropole. Ce film a été très bien reçu par le public. Le Foi l'a d'ailleurs utilisé comme support pour certaines réunions publiques. Mais depuis des années, nous avons de très bons films sur le sujet, mais rien ne bouge pour autant. Par contre, maintenant, depuis des années, les personnes qui accompagnent un malade en Suisse ou en Belgique n'ont plus aucun souci à leur retour en France. Voilà.
Dans la même ligne, qu'est-ce qu'il est advenu de Monsieur Bedos, le fils de Guy Bedos, qui a déclaré avoir été lui-même chercher à la pharmacie le médicament pour... il est poursuivi après pour ça ?
Non. Alors déjà, on ne peut pas aller chercher un médicament en pharmacie.
Oui, il était prescrit.
Alors, il y a différents points. Dans l'histoire liée à Guy Bedos, il n'était plus en état de faire quelque demande que ce soit ou de partir à l'étranger. La maladie l'avait complètement rattrapé. Mmh. Et son fils, maintenant, dit « Ah oui, j'ai aidé papa, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Alors, peut-être un médecin lui a-t-il donné une ordonnance pour des calmants très forts contre la douleur qui ont hâté son décès, mais en tout cas, pas un produit tel le pentobarbital. Ah, c'est une évidence.
Mm-hmm. Merci.
Je vous en prie.
Autre question ?
Oui, il y a maintenant en France, en tout cas, trois associations. Pouvez-vous nous situer le Foi par rapport à ADMD et à Ultime Liberté ?
Voilà. Alors, sur notre site, nous avons écrit un texte « Pourquoi trois associations en France ?» En fait, l'ADMD milite depuis 40 ans. N'a rien obtenu pour le moment, mais bon, nous connaissons l'ambiance politique, le climat politique en France. Et jusqu'à il y a peu, le président qui était celui de l'ADMD était totalement opposé au travail avec des médecins. contrairement au choix, qui au contraire bon, compte pas mal de médecins parmi ses membres et parmi les personnes actives, et prépare déjà une commission pour aider les gens après. Quant à Ultime Liberté, elle aussi ne travaille pas avec des médecins et voulait prôner le droit à choisir sa mort, même sans pathologie. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'en ai assez, je suis seule, je ne vois plus mes enfants, ou j'estime qu'à 80 ans, ma vie est finie et qu'elle ne vaut plus la peine d'être vécue. Ultime Liberté souhaitait fournir des coordonnées pour que les gens obtiennent un produit. Voilà. C'est comme cela que nombre de gens ont été perquisitionnés et se retrouvent sans rien. Voilà. Nous sommes bons. Nous sommes ce que nous sommes. Une nouvelle association très ouverte, estimant qu'effectivement nous avons le droit de choisir notre fin de vie. Et que si possible, il vaut mieux bien mourir que mal mourir, comme c'est le cas actuellement en France. Parce que je vois beaucoup de Belges venir vivre ou passer des vacances en France, et des Suisses également, mais je n'en vois jamais qui viennent mourir en France. On peut se poser la question. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur notre site, vous trouverez des explications tout à fait complètes sur la raison de trois associations en France.
Voilà, merci Nathalie. S'il n'y a pas d'autres questions, et vous pouvez... Pardon ?
C'est une question. Oui. C'est pour la Suisse, c'est pas pour la France. Est-ce qu'il faut être vraiment très malade ou presque... Il faut être très malade ou presque mourant pour pouvoir avoir droit au service d'Excit. Une personne de plus de 80 ans qui, tout simplement, qui a fait sa vie et qui en a peut-être marre pour plusieurs raisons... Est-ce qu'elle peut quand même, elle a le droit à utiliser Excit, à demander les services d'Excit, mais il faut être vraiment très malade pour ça.
Mais écoutez, je vais parler en tant que vilaine étrangère, mais il me semble qu'effectivement, le sentiment de vie accomplie sera certainement une raison pour laquelle peut-être dans quelques années, dans certains pays et dans certaines associations, une aide sera possible. Mais je trouve déjà extraordinaire, vu de la France, où en est votre pays, et toute l'aide que des associations donnent à des malades actuellement. Donc, effectivement, il y a peut-être une question là qui va plus... vers les membres du comité qui connaissent bien mieux la situation en Suisse que moi.
Je suis passionné par les textes de Georges Brassens qui aborde la mort d'une façon particulière. Et puis, j'ai même envisagé faire ma propre cérémonie funèbre avec des textes de Brassens, l'écrire moi-même à titre préventif. Je cherche des personnes qui seraient intéressées à aborder le sujet sur un autre angle, comme l'a fait Brassens dans sa vie, quoi. Alors, s'il y a des personnes intéressées, ils peuvent m'écrire un mot sur philippe@philolavo.ch pour en discuter, quoi, plutôt que de, parce qu'on est dans un continent où la mort est abordée souvent avec crainte. Et puis, alors que dans d'autres contrées, en Asie, par exemple, eh bien, c'est une fête, quoi. Alors, je trouve qu'on devrait... Il y a nos traditions judéo-chrétiennes qui nous ont été inculquées et puis qui ne sont pas forcément toujours bonnes à suivre parce que ça nous culpabilise, ça nous rend triste, alors que Georges Brassens a eu des chansons très drôles par rapport à la mort, quoi.
Tout à fait, tout à fait.
Merci, monsieur.
Merci.
Voilà. Resterait un point à l'ordre du jour, question-réponse. Nous souhaitions donner, c'est sacré hein, le droit de la liberté d'expression. Je souhaiterais que la personne qui s'appelle Serge Huneau, si cette personne se trouve être dans la salle, de vous exprimer, mais vous pouvez le faire depuis votre place, en quelques minutes s'il vous plaît, puisque vous avez vu que l'Assemblée... Mais écoutez, c'est le respect de tout, si on vous donne...
Oui, alors, laissez-moi parler et puis vous allez comprendre.
Allez-y.
Moi, ce que je remets en doute un peu, c'est la clause du discernement. Je vais vous en parler. J'ai vu finir la vie de ma mère, qui normalement aurait dû rentrer chez elle après un examen à l'hôpital, mais comme elle a refusé l'aide, le dossier a été remis à la justice de paix. La justice de paix a statué qu'elle veut rester dans la petite chambre d'hôpital où elle était. Elle est restée une année et demie dans la chambre d'hôpital avant que la justice de paix statue sur son sort. Donc ce que je veux dire, moi, à l'heure actuelle, pour les gens qui sont vieux, le vieillissement de la population, plus la démographie qui est toujours de plus en plus grande, nous n'avons pas le système administratif, ni sanitaire, ni juridique à la hauteur de la population. Maintenant, moi, je parle au moment privé. Je suis atteint du virus du sida depuis 1986. J'ai été sans médicaments pendant 14 ans. À l'heure actuelle, je me suis inscrit à Exit il y a 10 ans. Quelques semaines après, mes reins se sont arrêtés lors d'un séjour où j'étais en Thaïlande. Après 3 dialyses, miraculeusement, mes reins se sont rétablis. Pas complètement, je suis toujours au stade 4 d'insuffisance rénale. Au niveau HIV, je suis au stade 4 aussi. J'ai des neuropathies. Et j'ai eu 14 interventions aux artères. Et la première chose que les médecins ou les chirurgiens m'ont demandé avant l'intervention, c'était de leur signer une décharge. Par contre, moi, quand je leur ai fait demander de lire et d'approuver mes directives anticipées, j'ai eu que 2 acceptations. C'est pour ça que moi, la clause du discernement, elle me paraît un petit peu bancale. Moi, j'aimerais aussi qu'il y ait une anticipation à ce niveau-là, que, comme on disait, les directives anticipées, comme on voit, elles ne sont pas respectées dans ce pays. Tout n'est pas rose, comme on voudrait nous le dire. Je trouve que là, il y a un avenant à mettre sur cette clause du discernement. Je vous laisse réfléchir à ça.
Très bien.
Et peut-être que l'année prochaine, ou j'espère avant, vous aurez une réponse à me donner.
Oui, on peut vous donner une réponse. Je ne suis pas certain que vous n'ayez pas une confusion entre l'assistance au suicide et les directives anticipées. Je vous rappelle que les directives anticipées n'ont strictement rien à voir avec l'assistance au suicide. Pour se suicider, la personne doit être capable de discernement au moment où elle commet l'acte.
Je ne discute pas de ça. Ce que je veux dire à un moment donné, moi, c'est dans une des opérations que j'ai eues, quand je suis une opération où j'étais toujours... c'était je n'étais pas endormi, donc j'étais conscient.
Oui.
Mais j'ai eu un coma.
Oui.
Et quand je me suis réveillé, je ne savais plus, je savais que j'étais à l'hôpital, mais je ne savais plus pourquoi, etc., etc. Bon, ce que je veux dire, moi, je n'ai pas envie de me retrouver dans cet état-là. Et comme j'ai vu que les médecins ne respectent pas mes directives anticipées, c'est pour ça que j'aimerais que la clause du discernement elle change, pour qu'on puisse... Dans ces cas-là, dans le cas où moi je me retrouvais dans le coma, ou alors je fais quoi? Je décide maintenant que, comme j'ai peur de ça, je fais appel à vous, parce que je suis tellement dans un état que je pourrais vous demander maintenant de partir. Mais c'est bien raisonnable.
Oui, très bien. On réfléchira à votre situation, on pourra éventuellement
revenir.
Mais
réfléchissez pas pendant 10 ans non plus.
Ok. Voilà. Je pense qu'il y a pas d'autres demandes d'intervention. Il est tantôt 16h30. C'est le moment que vous attendez, j'imagine. Celui... Oui, madame Nathalie. C'est le moment maintenant de passer à la partie récréative dans la salle d'à côté. Non sans vous avoir au préalable... indiquer que la prochaine assemblée générale aura lieu au Valais, elle aura lieu à Montet, au théâtre du Crochetant, le 10 juin 2023, Et ce sera une date qui sera probablement très intéressante en lien avec l'adoption dans le canton du Valais d'une loi sur la fin de vie, singulièrement sur la possibilité de requérir une assistance au suicide lorsque vous êtes dans un EMS. Voilà, on se réjouit de vous retrouver dans une année et nous vous invitons à participer, à partager le verre de l'amitié. Merci beaucoup. Bonne rentrée chez vous.